Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Lublin et avant le podcast d'aujourd'hui, qui va être consacré à une analyse à chaud en quelque sorte de la guerre ou en tout cas des hostilités entre Israël et notamment le Hamas autour de la bande de Gaza, avec Michel Goya et Joseph Enrotin, je vais profiter qu'on a en ligne Joseph, qui est évidemment le rédacteur en chef du magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, qui est le partenaire du podcast, où Michel Goya écrit d'ailleurs très régulièrement, pour dire un mot du dernier numéro du magazine, en l'occurrence un hors-série, numéro 77, consacré, comme toujours, à un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire, dans ce cas particulier, à la Turquie et à ses perspectives autant stratégiques que capacitaires, ce qui est évidemment un sujet qu'on évoque de temps en temps dans le podcast à l'occasion de tensions en Méditerranée orientale, par exemple avec la France, ou encore lorsque des équipements ou des personnels d'origine turque sont déployés dans d'autres conflits, au hasard en Libye. Alors, dites-nous, Joseph, ce qu'on trouvera dans ce numéro, où j'ai notamment remarqué que vous aviez interviewé un amiral turc qui est extrêmement sympathique, qui vous a fait part de sa vision des choses tout à fait nuancée et intéressante sur la Méditerranée orientale, notamment.
Alors, oui, bonjour. En fait, l'amiral Cem Gurdeniz, en fait, est l'inspirateur de la patrie bleue, de ce qu'il appelle Mavi Vatan, hein, la patrie bleue, et qui est en fait une vision qui va au-delà du naval, qui va sur le maritime et au-delà de ça aussi, même très au-delà finalement du géopolitique, qui va vraiment sur l'aspect relations internationales, identité de la Turquie sur la scène internationale. Et ce qui est très intéressant, c'est une vision qui est complètement révisionniste, hein, donc par rapport au droit international, par rapport aux frontières avec la Grèce, par rapport évidemment aux zones économiques exclusives en mer, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est le background en fait de Cem Gurdeniz, qui est au départ un atlantiste confirmé, on va dire, hein, qui a fait toute sa carrière donc dans la marine turque, mais également dans les institutions de l'OTAN, et c'est quelqu'un qui est censé être francophile, qui a fait un Master 2 à l'époque, ça ne s'appelait pas les Master 2 à l'époque, mais à l'Université libre de Bruxelles, donc il l'a fait en français, et avec, nous dit-il, en fait, une sympathie pour la francophonie et pour la France. Et donc, in fine, ben, on voit bien qu'en dépit de cette vision plutôt officiellement francophile, le positionnement politique qu'il met en œuvre dans sa doctrine, en fait, doctrine qu'il enseigne, hein, une doctrine qui a une influence sur la politique étrangère et sur la politique maritime turque, bien très clairement est une vision qui est assez qui s'oppose en frontal finalement avec la vision française et d'une manière générale la vision européenne, quoi, des relations internationales et du droit maritime notamment.
Ouais, tout à fait. On peut préciser que il y a notamment aussi un article d'Alexandre Sheldon Duplay qui était venu dans ce podcast pour parler de la marine chinoise, qui fait un tour, disons, qui fait un peu le contre-champ de ce qu'affirme cet amiral turc, dont on aura compris que j'évite de prononcer son nom pour ne pas l'écorcher, mais ça permet de faire un tour, disons, de cette question maritime, qui est évidemment particulièrement sensible, mais comme d'habitude, c'est un hors-série qui voit beaucoup plus large. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être l'occasion de parler. Notamment, il y a un article de Pierre Vallée sur la relation entre la Turquie et l'OTAN, qui est particulièrement sensible. Il y a un article d'Emmanuel Vivneau sur aussi l'industrie militaire turque. Je ne sais pas s'il y en a un que vous voulez particulièrement souligner.
Il y a un très bon article, à mon sens, de Vincent Touré, donc de la Fondation pour la recherche stratégique. Alors, tous les articles sont bons, évidemment, hein, mais celui de Vincent Touré permet de revenir notamment sur l'évolution de la stratégie militaire turque, Sachant qu'en fait, elle se déploie sur plusieurs axes, sur plusieurs piliers. Un pilier qui est en fait celui de ce qu'ils appellent contre-guérilla. Alors, l'accent turc n'est malheureusement pas au point, mais qui consiste en fait à faire de la contre-irrégularité donc, par rapport aux organisations kurdes, mais qui dans le même temps impose, de par les obligations à l'égard de l'OTAN, d'avoir des logiques de défense territoriale. Donc on n'est plus du tout cette fois-ci sur la contre-irrégularité, on est vraiment sur la régularité à l'état pur. Et donc finalement, la stratégie turque doit se dessiner entre ces deux pôles-là, en sachant qu'il y a en plus un impératif d'autonomie stratégique, notamment en matière d'armement. Et en sachant évidemment qu'en arrière-plan de tout cela, il y a des tensions sur la scène politique intérieure qui aboutissent à ce qu'une partie de l'armée se soit fait littéralement décapiter, hein, accusée à tort ou à raison.
Pas littéralement, figurativement, Dieu merci, mais...
Alors, figurativement ou dans un certain nombre de cas, littéralement. Il y a quand même eu des disparitions un petit peu inquiétantes. Et il y a eu pas mal de gens qui ont été envoyés en prison ou expulsés des forces. Et tout ça, évidemment, crée, si vous voulez, une ambiance qui n'est évidemment pas particulièrement propice au succès stratégique, mais aussi avec une reprise en main, finalement, de l'institution militaire directement par Erdogan, avec toute une série d'impératifs liés notamment à l'industrie de défense, et ainsi de suite. Donc bref, situation très compliquée, Vincent Touré fait un très bon point sur la stratégie militaire de ce point de vue-là.
Très bien, donc je rappelle donc ce numéro 77 de DSI consacré à la Turquie, que l'on trouve dès à présent en kiosque, qui ont tous rouvert maintenant, espérons-le. Alors, il est temps de passer au thème de l'émission proprement dite, à savoir donc une analyse un peu à chaud des opérations entre Israël et le Hamas, et peut-être aussi d'ailleurs le Hezbollah, qui semble entrer un peu dans la danse avec des tirs de roquettes depuis un jour ou deux, au moment où on enregistre cette émission. Je précise que c'est le jeudi 20 mai. On est à un moment où il semble qu'on arrive vers un cessez-le-feu, mais au moment où on enregistre, on n'a pas encore de certitude totale là-dessus. Ce ne serait pas la première fois qu'il y a un revirement de situation dans ce genre de contexte conflictuel. Mais donc, j'ai le plaisir de recevoir Joseph, évidemment, mais aussi Michel Goya. Donc bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, je rappelle aux rares auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu le plaisir de vous entendre dans le podcast, que vous êtes colonel de l'armée de terre, aujourd'hui à la retraite, mais vous êtes aussi historien, auteur de nombreux ouvrages, ainsi que d'un blog, La Voix de l'Épée, où vous publiez régulièrement des analyses d'histoire et ou de tactiques militaires. Alors je vais juste citer deux de vos ouvrages, qui me sont chers et dont vous êtes d'ailleurs venu parler dans le podcast, et je peux renvoyer aux émissions qui en ont été tirées, Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, paru chez Taillandier en 2015, mais aussi un ouvrage paru en 2013 avec Marc-Antoine Briand, Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée aux éditions du Rocher, qui revenait sur la guerre de 2006 d'Israël contre le Hezbollah. Vous étiez venu en parler aussi dans le podcast, mais on va voir qu'il y a des passerelles et des points communs assez nets avec ce qui nous intéresse aujourd'hui. Évidemment, ce sont les roquettes, mais ça va aussi au-delà des roquettes. Je vais enfin préciser que vous avez publié une longue analyse de la précédente guerre de Gaza en 2014 sur votre blog, qui va évidemment être très intéressante à rapprocher de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je pense que les auditeurs l'auront compris avec ce casting, en quelque sorte, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sur les affrontements en cours depuis, disons, le 9-10 mai, c'est essentiellement le volet militaire, à la fois tactique, mais aussi capacitaire. Je veux dire par là qu'on va évidemment pas trop s'aventurer sur le volet politique, même si évidemment les problèmes militaires sont aussi politiques. C'est un peu la base de la stratégie que de ne pas penser qu'on peut déconnecter. Mais on va pas non plus essayer de conclure définitivement la question de savoir à qui appartient la Palestine ou Jérusalem-Est, ni ce qu'il faudrait faire à l'ONU. C'est pas notre propos, et il y a d'autres émissions et d'autres micros où d'autres peuvent essayer de régler, ou plus probablement de ne pas régler, cette question. Mais c'est donc un conflit qui est intéressant d'un point de vue militaire, parce que comme dans certains autres conflits ouverts récents, comme celui par exemple du Haut-Karabakh, on a vu des choses qui sont vraiment dignes de réflexion et d'analyse sur ce qui peut se faire militairement aujourd'hui. Évidemment, ce sont les grandes images, vidéos, photos de roquettes interceptées par l'Iron Dome, le dispositif anti-roquettes israélien. Mais j'aimerais avant tout commencer par un bilan très provisoire, alors qu'on se rapproche apparemment d'un cessez-le-feu. C'est-à-dire, bon, le Hamas a tiré beaucoup de roquettes, alors à l'heure actuelle on serait environ à 3700 roquettes tirées en direction d'Israël. Israël aurait fait un certain nombre de frappes. Commençons par là. Qui a accompli quoi dans ce conflit et qui a montré quoi, tant du point de vue du Hamas, des roquettes, tant que du point de vue des capacités de réaction, de défense puis de réaction de la part d'Israël. Je ne sais pas qui veut commencer. Michel Goya.
Oui, en fait, il y a quand même un air de déjà-vu hein, dans tout ce qui se passe depuis une semaine, même des déjà-vu et revu pratiquement. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où pratiquement depuis, allez, on va dire juste pour parler que de Gaza, on est à la quatrième affrontement entre le Hamas et Israël et qui a toujours la même configuration, quoi, sensiblement. Parce que la liberté d'action militaire de part et d'autre est en réalité très limitée. Quoi. C'est-à-dire que, pour le dire très simplement, les forces du Hamas et de ses alliés ne peuvent pas pénétrer en Israël parce que ce serait d'abord c'est très difficile matériellement et ils se feraient massacrer, pour le dire simplement. Et inversement, les forces terrestres et israéliennes peuvent pénétrer, pour le coup, dans Gaza, mais il faut quand même le rappeler, la dernière fois qu'elles l'ont fait, en 2014, elles ont perdu 66 soldats, c'est-à-dire plus que la France au Sahel depuis 8 ans. Donc c'est quelque chose qui est difficile. Et donc on est dans une situation de dissuasion mutuelle, on est un peu avec deux forteresses un peu accolées et qui n'ont pratiquement plus comme capacité que de faire pression sur l'autre par la troisième dimension, par les roquettes d'un côté, par des frappes de différents types de l'autre. Et en gros, il s'agit de faire pression sur l'autre dans une sorte de poker un peu meurtrier. Jusqu'à ce que voilà, il y en a un qui craque ou que les deux s'entendent pour mettre fin à la guerre. Et là, pour l'instant, ce qui se passe ressemble énormément au conflit de 2012, dans sa configuration, dans sa durée, dans les dégâts qui sont faits de part et d'autre. Voilà, on est quelque chose qui n'est pas fondamentalement nouveau, mais il n'est pas fondamentalement nouveau parce qu'il est difficile, en réalité, de faire du nouveau, quoi, très clairement au point de vue militaire.
Joseph ?
Oui, mais en fait, on est toujours dans cette configuration stratégique qu'un commentateur avait qualifiée en fait de tonte du gazon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Hamas, les organisations dans la bande de Gaza remontent en puissance quelque part, elles posent un problème de sécurité à Israël, des opérations s'engagent et finalement, se faisant à distance de part et d'autre, bah, comme l'a dit Michel, quelque part le problème d'un point de vue militaire, n'est jamais véritablement réglé. Donc, il y a une espèce d'endiguement, si vous voulez, de la part d'Israël à l'égard de Gaza qui se crée par voie aérienne et par toute une série de dispositifs, parce que au-delà des raids aériens en tant que tels, il y a en amont un process de surveillance constante, certains pourraient dire d'occupation aérienne quelque part de l'espace de Gaza, mais in fine, rien n'est jamais réglé. Et puis, bah, de temps en temps, effectivement, on remet un petit peu les choses d'équerre dans l'équilibre entre les deux acteurs, sauf que bien évidemment cela ne débouche pas sur un règlement en bonne et due forme. Cela ne fait jamais que proroger finalement les conditions préalables d'un nouveau conflit, d'une nouvelle itération.
Ouais, bah alors je vais quand même me permettre d'insister un peu sur les nouveautés, sur les originalités de ce conflit, ne serait-ce que pour rentrer un peu dans le détail. Là, on a bien compris une situation stratégique, même tactique, qui semble se répéter. Mais si on regarde les équipements, il semble quand même qu'on a une montée en gamme, en tout cas du point de vue du Hamas. Alors après, il faut savoir si c'est un précédent absolu, mais il semble qu'ils tirent plus de roquettes, ils en tirent beaucoup, beaucoup plus même, il semble qu'elles soient plus précises, qu'elles soient plus guidées GPS qu'auparavant, ce qui évidemment fait une grande différence quand on peut à peu près diriger des roquettes. Certes, on peut les lancer de manière un peu indiscriminée vers des centres urbains, mais si on veut essayer d'atteindre des cibles militaires, comme le Hamas s'en est vanté il y a quelques jours, c'est bien de pouvoir guider un peu plus. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on a vu? Prenons peut-être du point de vue du Hamas, parce que c'est de là que c'est parti en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on a vu en termes d'équipement, en termes de performance, et en termes de performance aussi de ceux qui les lançaient, c'est-à-dire en termes d'organisation et en termes d'outils?
En fait, je pense que la montée en gamme du Hamas a eu lieu au début des années 2010. Précisément. C'est là où il y a eu un afflux massif, en grande partie en profitant de la présence des frères musulmans au pouvoir en Égypte, ce qui a constitué, ça a permis de constituer une quasi-autoroute entre l'arsenal à ciel ouvert libyen de l'ex-colonel Kadhafi et la bande de Gaza. Donc c'est surtout à ce moment-là que le Hamas s'est équipé et s'est professionnalisé aussi. C'est-à-dire qu'il est monté en gamme, c'est pas simplement des équipements, c'est aussi alors on parle beaucoup des roquettes, on parle beaucoup de capacité de frappe, mais ce qui est peut-être le plus nouveau, alors c'est peut-être un tropisme personnel, mais c'est qu'en réalité, ils ont constitué une infanterie de bonne qualité, quoi. C'est ça, là, pour donner un exemple un peu macabre, c'est-à-dire que pendant l'opération Plomb durci israélienne en 2008-2009, en gros, dans les combats, il y avait pour 40 combattants du Hamas, pour un combattant israélien qui tombait, il y en avait 40 du Hamas. En 2014, c'était du 1 pour 9. C'est-à-dire que là, on mesure en réalité toute la montée qualitative. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'ils sont équipés de missiles anti-chars aussi, modernes, qu'ils ont accédé à ce que Joseph appellera une techno-guérilla. C'est-à-dire voilà un peu à l'image du Hezbollah ou de l'État islamique, une organisation armée non étatique qui dispose d'une véritable armée d'environ peut-être 40 000 combattants plus ou moins permanents, mais de bonne qualité et qui sont bien équipés.
Mais alors une armée sans vouloir, mais une infanterie pour faire quoi? C'est-à-dire c'est comme dissuasion au cas où Israël voudrait pénétrer. Parce que là en l'état personne ne passe la frontière, donc l'infanterie en quelque sorte elle est.
Il y a tout un jeu d'obus et de cuirasses quand même entre les deux. C'est-à-dire que les Palestiniens essaient en permanence de franchir cette barrière. Qui les bloquent, qu'ils essaient de contourner par des tunnels, par exemple, ils ont constitué des unités d'ULM, par exemple, pour essayer de passer par-dessus. Ils ont fait des raids par la mer, etc. Ils essaient tout un tas de choses. Et si la vraie, enfin, pour moi, la nouveauté qu'il y a actuellement, c'est d'abord d'un point de vue quantitatif. C'est la capacité de frappe qui, là, ils ont lancé presque autant de projectiles que pendant le mois et demi du conflit de 2014. Donc là, il y a un stock d'un seul coup, on s'aperçoit qu'ils ont un volume. Alors, est-ce qu'ils sont capables de tenir longtemps dans la durée une telle cadence de tir? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont balancé beaucoup de projectiles, effectivement. Alors, c'est en partie pour essayer justement de contourner, enfin de saturer le système Iron Dome. Et puis même si le dôme de fer est efficace à 90%, mais il reste toujours 10% qui passe et qui peut faire éventuellement des dégâts, et qui tape de plus en plus loin. Effectivement, ils peuvent couvrir maintenant une grande partie du territoire d'Israël, et donc ils peuvent sélectionner aussi un certain nombre de cibles économiques, de cibles industrielles, des aéroports, des choses comme ça, qui peuvent paralyser le pays. Peut-être même, et je termine là-dessus, ça leur permet d'éviter de taper directement sur la population, je dirais. Ça, c'est un peu le péché originel qu'ils ont pu assumer un temps, mais qui leur attribue ipso facto le qualificatif de terroriste et justifie toutes les campagnes de frappe qu'ils peuvent subir par la suite. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne chose pour eux d'être précis, de tuer des gens, de tuer la population civile. Et donc, un peu comme la dissuasion nucléaire chez nous, bon, on évite de parler qu'on tape, de taper sur les cités, mais qu'on tape sur des objectifs maintenant, qui sont des objectifs militaires ou des objectifs économiques, etc., de grande valeur. Donc voilà, pour moi, c'est surtout une extension quantitative et une diversification du ciblage, on va appeler ça comme ça.
Alors Joseph, peut-être pour entrer encore un peu plus dans ses performances, alors c'est un peu compliqué parce que vous êtes évidemment un très grand expert de tout type de projectiles répertoriés fournis par diverses industries d'armement. Là, un des problèmes, c'est que c'est aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'artisanal, enfin, d'ailleurs c'est une question de savoir dans quelle mesure est-ce que ce sont des modèles artisanaux qui sont faits dans le sous-sol de Gaza et dans quelle mesure ils récupèrent des choses. Mais en tout cas, à partir du constat, à partir de ce qui tombe et de comment ça tombe, comment est-ce qu'on peut en tout cas analyser le type d'armes dont dispose le Hamas et la manière dont c'est un peu monté en gamme?
Alors, grand expert, ça je ne sais pas, mais comme Michel le soulignait, en fait, je pense qu'il y a Il y a un triangle, si vous voulez, qui se fait entre la professionnalisation, qui est un vrai marqueur des process de technoguérilla, l'utilisation, la réflexion tactique, et puis ensuite la stratégie des moyens en tant que telle. Et au sein de cette stratégie des moyens, vous allez retrouver une proto-industrie qui fabrique effectivement, qui a commencé par fabriquer des petites roquettes Kassam qui sont grosso modo au départ des tuyaux de poêle remplis de poudre, etc., et dont la charge explosive est très faible et qui ont une capacité qui est grosso modo symbolique, hein, de passer au-delà finalement des frontières électroniques, etc., pour aller taper des villages. On voit bien qu'il y a toujours ce canal-là, qu'en même temps, il y a eu une professionnalisation dans la production de ces roquettes-là, avec effectivement un allongement de portée, qui sont toujours pas guidées, hein, donc on est vraiment dans la roquette. On voit bien aussi qu'il y a des engins qui sont plus lourds, probablement fournis par le Hezbollah et ou l'Iran. On voit également, parce que bon, le Hamas en a montré des images, hein, donc ça fait partie aussi de toute cette esthétique de la puissance, des drones en fait de frappe, plutôt techniquement c'est plutôt des missiles de croisière, vu qu'un drone il est censé revenir à un moment donné, là, c'est pour frapper, donc des Ababil 2. Donc là aussi, ce n'est pas des très gros drones, mais enfin, c'est télécommandé, il y a un petit moteur, ça vole à basse altitude, c'est plus difficile à détecter. Il n'y a pas énormément de charges explosives, mais enfin, il y en a quand même un peu. Enfin, vous voyez, il y a une progression, si vous voulez, qui se fait. Et donc, en matière de stratégie des moyens, donc les groupes palestiniens travaillent vraiment en suivant différents canaux, en cherchant à multiplier les effets. Ceci dit, je différerais peut-être un petit peu de ce que disait Michel, parce que je pense que chez certains Palestiniens, dans certains groupes, en tout cas, le fait de frapper des civils est clairement assumé. Alors, non pas pour tuer des civils pour le plaisir de les tuer, mais pour provoquer, en fait, dans une logique très douaisienne, finalement, hein, qui renvoie à Giulio Douai, une vision où, quelque part, Israël ne serait pas en mesure d'assurer la sécurité de cette population. Et donc, si vous voulez, de saper la légitimité du gouvernement israélien, aux yeux de la population israélienne. Protégez-moi finalement de toutes ces vagues de roquettes, et si vous n'êtes pas capable de me protéger, eh bien, c'est qu'il y a un problème et je vais remettre en question votre légitimité, et ainsi de suite. Donc chez certains Palestiniens, je pense qu'il y a cette vision-là.
Ouais, mais alors maintenant, si on passe pour rester sur cette troisième dimension qui tient donc le haut du pavé, même si évidemment il y a derrière d'autres choses qui sont la menace et qui sont en quelque sorte aussi le levier du rapport de force. Si on passe donc de l'autre côté du miroir, du côté israélien et donc de ce fameux Iron Dome qui est censé intercepter les roquettes, qui est pas nouveau, hein, on peut rappeler que ça fait au moins une dizaine d'années qu'il est déployé au sens large. Après, il a jamais été testé à ce niveau-là et puis il a rarement été testé de manière très intensive. On a beaucoup avancé le chiffre de 88-90% des roquettes, des projectiles qui seraient interceptés. Bon, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est différencié? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des... On a bien compris qu'il y avait plusieurs types de projectiles différents. On en parlait, quand on avait... La dernière fois que Michel était venu pour faire un podcast sur le Liban, on en parlait avec Olivier Passot, qui disait que, notamment, à très petite portée, l'Iron Dome n'a pas le temps de se déployer. Donc, c'est-à-dire, est-ce que... Quel est le bilan, en quelque sorte, au bout de 10 jours, de cet Iron Dome? Et aussi le bilan différencié, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus vulnérable à certaines menaces, certaines choses qui sont dans l'arsenal du Hamas?
Iron Dome a déjà été utilisé en 2014, hein, avec sensiblement la même efficacité affichée, en tout cas, et probable. C'est un système qui est indéniablement qui est efficace. Qui est très sophistiqué. Il faut quand même rappeler toute la difficulté que ça peut représenter d'intercepter des petits projectiles relativement basse altitude.
Ouais, c'est ces photos qui sont incroyables dans la nuit où on voit les lanceurs de roquettes qui partent de Gaza et les missiles de l'Iron Dome qui sont en altitude en quelque sorte en attendant d'acquérir une cible et qui ensuite fondent sur eux. C'est vraiment des images qui sont assez incroyables.
Tout à fait, mais il y a une fonction aussi symbolique hein, dans tout ça. Justement, ces images servent à montrer, et c'est ce que disait Joseph, servent à montrer que l'on fait quelque chose et que l'on protège les gens. En réalité, il n'y aurait pas d'Iron Dome. le bilan ne serait pas forcément très différent, parce que l'immense majorité de ces roquettes ne sont pas précises. En dehors du système anti-aérien, il y a aussi une défense civile israélienne qui est très organisée, les gens sont alertés, ils se mettent aux abris, etc. Donc, par exemple, pendant la guerre de 2006, contre le Hezbollah avait lancé 4000 roquettes sur le nord d'Israël je crois qu'il y avait eu 40 morts civils. Oui, ça protège, mais ça protège pas complètement. Ensuite, c'est un système qui a aussi une valeur effectivement symbolique, qui est accessoirement assez coûteux quand même. Il faut éliminer une roquette bricolée, artisanale, ça va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, incontestablement, mais ce n'est pas tellement un problème. Et puis, il y a effectivement quelques trous, c'est-à-dire que quand c'est très bas, le radar du système, pour dire simplement, n'a pas le temps, ou ne voit pas simplement, d'ailleurs, le projectile. Donc, il y a certains projectiles très courts, des obus de mortier, qui sont lancés, qui ne vont pas très haut, qui ont une durée de vol qui est très limitée, qui ne sont pas interceptés. Alors peut-être aussi d'ailleurs que certains, il sera difficile pour des drones qui vont relativement bas d'être également interceptés par un tel système. Mais de l'autre côté, les projectiles qui passent un peu au travers ou qui ne sont pas détectés seront forcément des projectiles un peu à courte portée et probablement pas des objectifs très lourds et donc très puissants et qui finalement ne feront pas beaucoup de mal.
Joseph ?
Oui, tout à fait. Alors, le truc, c'est que quand on envisage la défense comme ça contre un système de roquettes ou peu importe, en fait, il faut envisager cette défense-là d'une manière étagée. Et donc, l'Iron Dome, en l'occurrence, ben, c'est un des morceaux, si vous voulez, de la capacité à bloquer les roquettes du Hamas, djihad islamique, etc. Et l'autre morceau, c'est le fait d'aller pouvoir détruire les stocks, donc avant, évidemment, qu'ils ne soient lancés. Et là, de ce point de vue-là, il y a une vraie complémentarité au sens où, en fait, l'Iron Dome, c'est un système qui dépend de la force aérienne israélienne, qui a misé énormément aussi sur ce qu'on appelle les opérations multidomaines. Et donc là, le but du jeu, c'est d'obtenir une fusion, en fait, des informations qui proviennent d'un maximum de sources, de façon à pouvoir ensuite utiliser le système qui va être le plus efficace à ce moment-là contre une cible désignée, que ce système soit un avion de combat avec une arme guidée GPS, que ce soit une batterie d'artillerie de 155, etc. etc. Donc là, il y a une vraie réflexion israélienne qui est aussi en cours depuis un certain temps, et en sachant qu'évidemment, ben, dans la vision israélienne, là aussi, même si on ne se base que sur l'aspect de défense anti-roquette, dans une logique anti-balistique, on va dire, là aussi il y a un étagement, parce que autant Iron Dome, c'est un peu la couche basse, hein, donc contre des roquettes effectivement qui ont quand même un peu de trajectoire balistique, les obus de 155, etc. Pour des roquettes de plus longue portée, plus rapides et donc plus difficiles à intercepter, il y a la fronde de David, hein, le David Sling, qui est plus spécifiquement orienté Hezbollah, parce que le Hezbollah a des roquettes qui sont plus lourdes. Et puis, par rapport à l'Iran, cette fois-ci, contre des vrais gros missiles balistiques de moyenne portée, là, il y a encore un troisième système, qui est le système Arrow. Et en fait, dans les trois cas, en fait, c'est la force aérienne qui intègre tout ça, de façon à avoir en permanence la big vision, hein, l'œil de Dieu, entre guillemets, sur tout ce qui se passe dans le ciel, mais aussi avec la possibilité, non seulement de se défendre avec ces systèmes-là, mais de pouvoir se défendre aussi par l'attaque et par l'élimination des stocks. Il y a une opération, d'ailleurs, qui semble avoir eu lieu de manière assez intéressante, qui a consisté à dire « on va attaquer par la voie terrestre ». À ce moment-là, en fait, les Palestiniens ont commencé à sortir de leur tunnel tout un tas de matériel, et c'est à ce moment-là, en fait, c'était un traquenard, c'était un piège, c'est à ce moment-là que la force aérienne israélienne est entrée en action pour éliminer un certain nombre de ses capacités. Bon, on verra ce que l'histoire en dit, mais en tout cas, c'est ce que les médias israéliens commencent à raconter.
Oui, c'était notamment un tweet qui a été très controversé de l'IDF, donc l'armée israélienne, qui disait il y a une attaque à Gaza qui se lance.
Voilà.
Il faudra voir les effets, mais c'est encore une fois une leçon qu'il ne faut pas trop traîner sur Twitter, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour tout le monde. Non mais simplement pour continuer sur cette chose de la contre-attaque en quelque sorte israélienne, Alors ça va, c'est évidemment très difficile, mais est-ce qu'on a déjà une idée de son efficacité? Je pense notamment avec le précédent du Hezbollah, dont on parlait notamment avec Olivier Passot la dernière fois quand on parlait du Liban, qui disait que bon, les lanceurs de roquettes, en fait, ils pouvaient être éliminés. C'était pas dramatique parce que généralement, ils étaient quasiment mis sur minuteur. Et bon, la frappe venait en retour, ça éliminait certes le lanceur de roquettes, mais si ça tapait rarement des gens qui les manœuvraient parce qu'ils étaient déjà plus là quand les roquettes partaient. Est-ce qu'on sait si c'est le même genre de système pour le Hamas, si le Hamas réussit en quelque sorte à préserver ses forces humaines, comme c'est apparemment le faire le Hezbollah, face aux réactions en temps très court israéliens?
Oui, bah, faut comprendre que aussi que tout le territoire occupé par le Hamas, qui est un territoire essentiellement urbain, c'est très dense. Hein, c'est la bande de Gaza, c'est 40 km sur 10, et vous avez 2 millions d'habitants sur cette bande. Donc c'est un endroit qui est très densément peuplé, urbain, et qui est organisé depuis des années par le Hamas et les autres groupes pour faire face à la menace aérienne israélienne. C'est-à-dire très concrètement, ce sont des zones fortifiées, il y a tout un système souterrain, donc il y a la 3D au-dessus, mais il y a aussi la 3D en dessous qui lui fait pendant, et donc le Hamas est installé sous Gaza, dans ce qu'on appelle le métro. Et c'est à partir de là que, bah déjà, ça, ils se protègent contre la plupart des frappes aériennes, et c'est à partir de là que, ils sortent, ils organisent des tirs rapides. Et en réalité, la frappe d'Israël ont beaucoup de mal à s'attaquer directement au lancement de roquettes ou de projectiles quelconques. Elle frappe plutôt d'autres cibles, hein, des essais de frapper, elles essaient de faire mal au Hamas d'une manière différente, en tapant sur possible sur des leaders qui ont été identifiés, qui ont positionné, on essaie de décapiter, on essaie d'obtenir, enfin de frapper des objectifs militaires ou des objectifs symboliques. Donc on essaie de faire mal. C'est une guerre de pression de part et d'autre, hein. Avec cette particularité que c'est une guerre de pression où on tape surtout globalement sur les civils, quoi, où les combattants, les soldats s'affrontent relativement peu. En revanche, on fait pression. C'est une guerre de stress, pas que de stress, mais globalement, on fait une pression psychologique sur l'autre pour le faire craquer.
Ouais, d'où l'intérêt, enfin la centralité absolue dans ces cas-là, évidemment, du renseignement, puisque pouvoir déclencher des frappes sur, par exemple, les maisons de leaders du Hamas, comme c'est apparemment le cas depuis quelques jours, et faire traquer Mohamed Deif, donc qui serait le chef militaire du Hamas, ça implique de travailler en renseignement à flux tendu, mais bon, ça, on peut supposer qu'Israël le fait quand même depuis un paquet d'années à Gaza. Joseph, vous vouliez ajouter quelque chose?
Alors oui, en fait, il y a... Il y a quelques années de ça, un ancien général israélien, Reuven Benkler, parlait de notion de champ de bataille vide. Alors, en l'occurrence, c'était par rapport au Hezbollah et à la plaine au sud du Litani. Mais le descriptif, quelque part, de la zone de bataille qu'il avait en tête à la suite des opérations de 2006, c'était de dire, voilà, la plupart du temps, dans la journée, finalement, il ne se passe rien. Il y a des gens qui vaquent à leurs occupations et ainsi de suite. Mais quelques heures par jour, ces gens-là, entre guillemets, se transforment en combattants. Ils disaient, voilà, le problème pour Israël aujourd'hui, c'est de réussir à attraper ces gens-là ou à éliminer ces gens-là au moment où ils deviennent combattants, c'est-à-dire avant qu'ils ne portent atteinte à Israël et alors qu'ils sont légitimes à être ciblés parce que combattants. Et donc, la vision qu'il avait, c'était de dire, ben voilà, en fait, il faut développer un maillage en termes de drones suffisamment dense et suffisamment conséquent que pour pouvoir repérer des comportements qui soient des comportements de combattants, voilà, quelqu'un qui met en batterie des roquettes, etc. Sachant qu'évidemment, les roquettes les plus problématiques sont les plus lourdes, et bon, les plus lourdes sont aussi celles qui demandent le plus de matériel, de temps, etc., pour être mises en œuvre, et donc qui laissent un petit peu plus de temps finalement aux opérateurs du renseignement et aux analystes d'images pour pouvoir dire ok, ces gens-là sont problématiques ou pas. Et le résultat des courses, évidemment, c'est que dans une logique pareille, les Israéliens ont fini complètement noyés sous l'information parce que voilà, effectivement, comme Michel le rappelait, la bande de Gaza est extrêmement dense, c'est peut-être une des zones les plus denses, les plus densément peuplées au monde. Et donc, effectivement, on a commencé à pouvoir repérer des comportements suspects à gauche à droite, c'est virtuellement impossible, et d'autant plus qu'il y a, je ne sais plus quel était le décompte qu'avaient fait les Nations Unies du nombre de bâtiments qu'il y avait dans la bande de Gaza et d'un certain nombre de bâtiments qui pouvaient être utilisés, alors soit pour stocker des munitions, soit pour tirer des munitions, avec toutes les problématiques à côté de cela, de bouclier humain, etc., etc. Et bon, c'était juste affolant. Donc effectivement, oui, il y a une dimension de renseignement qui est absolument phénoménale et dont on a finalement que très peu on dirait que très peu d'indices. On se doute bien qu'évidemment, il y a du renseignement humain, qu'il y a du renseignement par voie d'imagerie, etc., etc. Mais jusqu'à quel point et avec quelle capacité, là, les Israéliens se taisent dans toutes les langues pratiquement.
فمه السلاسل ربطوا يديه في صخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبيارق ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق طردوه من كل المرافق أخذوا حبيبته الصغيرة وقالوا أنت لاجئ
Il faut peut-être dire un mot, on l'a déjà évoqué, on l'a déjà esquissé, mais évidemment on a l'impression que c'est une pièce qui se rejoue à chaque fois un peu de la même manière, en tout cas depuis que Israël a évacué la bande de Gaza, c'est-à-dire que, et même depuis que Israël est aussi, enfin c'est aussi un peu la même situation avec le Sud-Liban aussi, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a une sorte de sanctuaire, ou en tout cas de territoire sur lesquels Israël ne veut absolument pas s'aventurer, qu'il y a une vraie inquiétude d'engager des troupes au sol parce que ça paraît la recette pour un désastre. Donc est-ce qu'on en quelque sorte, on peut faire un, pas un bilan, mais si, essayer de voir les rémanences qu'il y a de ces conflits précédents, 2006 Liban, 2012, 2014 pour Gaza, et de voir en quelque sorte comment c'est intégré dans la réflexion israélienne, et en même temps aussi de se demander, quelle est, si on se place du point de vue israélien, quelle est la voie de sortie, puisqu'on sait bien que la supériorité ou la suprématie dans la troisième dimension ne permet pas, pas vraiment de clôturer un conflit. Donc, en quelque sorte, d'où vient cette peur et comment est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette peur? Parce que s'ils veulent se débarrasser de cette menace, il va bien falloir pénétrer quelque part à un moment.
Michel Goyen. Je suis allé en Israël en fin 2004 à l'état-major des armées à Tel Aviv. Et là, il y a un officier qui nous expliquait, donc on est fin 2004, qui nous expliquait, ben, pour nous, le problème palestinien est résolu. Parce que voilà, nous avons établi une barrière de sécurité. Il n'y a plus d'attentats sur le sol israélien, donc plus d'attentats, plus de problèmes. Et nous, on a évacué le sud du Liban, on va évacuer la bande de Gaza. Et ça, c'était l'occupation qui nous posait beaucoup de problèmes, y compris les problèmes militaires. Il y a 1000 soldats israéliens qui sont morts au Liban. Et on contrôlera à distance. Donc, on a suffisamment de capacité de frappe et précise. On a ce que les Russes appellent un complexe de reconnaissance frappe, un ensemble moyen de renseignement très, très important dont parlait Joseph et de capacité de frappe qui nous permettent de maintenir une pression à distance. Et ce faisant, bah, ils ont laissé finalement le terrain à leurs adversaires, au Hezbollah, au Liban, au Hamas dans Gaza, qui ont occupé le terrain, qui l'ont organisé. Et qui se sont adaptés eux-mêmes. La première adaptation, c'est quand même de ces organisations face à la menace israélienne. Et depuis, les Israéliens ont un peu de mal à sortir de ce modèle, si tant est qu'ils veuillent en sortir. Joseph rappelait l'expression « tondre le gazon », mais peut-être que ça leur suffit en réalité. de dire voilà, ben, de temps en temps, ben, on remet une pression et on assure la sécurité, on montre qu'on assure la sécurité. Finalement, ces guerres ne sont pas si meurtrières que ça pour nous, Israéliens. Bah, donc, on peut se contenter de continuer comme ça éternellement, quoi.
Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi du coup que, en quelque sorte, le seuil d'intolérabilité a évolué pour Israël. C'est-à-dire, au début, il s'agissait de combattre les attentats suicides en plein milieu de Jérusalem ou de Tel Aviv, etc. Et c'était ça le danger. Enfin, et les roquettes, c'était quasiment un danger secondaire par rapport au danger terroriste dans le cœur d'Israël. Aujourd'hui, les roquettes, c'est intolérable. Enfin, on voit qu'en quelque sorte, la ligne bouge un peu, ce qui est évidemment aussi un problème politique pour le gouvernement israélien, parce que si on veut plus aucune attaque, évidemment, on mesure qu'il faut quadriller un territoire de manière autrement plus extensive. Joseph, peut-être?
Alors oui, en fait, je pense que Michel a raison. C'est-à-dire que finalement, voilà, on est dans une logique d'endiguement d'un problème donné sur Gaza, d'un point de vue, on va dire, tactico-opératif. D'un point de vue stratégique, finalement, Israël a réussi à diviser, la Palestine, quelque part. Parce que d'un côté, on se retrouve avec Gaza, mais d'autre côté, on a la Cisjordanie, qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes longueurs d'onde politiques.
C'est l'euphémisme du siècle, Joseph.
C'est l'euphémisme du siècle. Et donc, au final, bah, c'est un bon vieux classique, hein, diviser pour régner, quelque part. Les deux territoires, finalement, sont contrôlés, effectivement, plus ou moins à distance, et puis bah, par toute une série de techniques et de tactiques, et finalement. C'est vrai que même la période où on a vu des attaques en fait par poignardage hein, sur le sol israélien, bah, quelque part tout cela s'est calmé. L'armée israélienne depuis grosso modo, enfin depuis 2-3 ans, accorde beaucoup plus d'importance en fait à la haute intensité, avec bah, toute une réflexion. Ça, Michel en parlera beaucoup mieux que moi, mais finalement de s'interroger finalement par rapport à ce qui s'est passé après 2006 face au Hezbollah, mais aussi de constater que ben, aux portes d'Israël, il y a une guerre civile extrêmement violente qui s'est déroulée en Syrie, avec un acteur proto-étatique extrêmement puissant qui évidemment ne porte pas Israël dans son cœur, etc., etc. Et donc avec la nécessité de rebasculer finalement sur le versant haute intensité. Donc il y a toute une série de réformes qui sont en train d'être mises en route par rapport à cela, de formation d'unités blindées et de réflexion sur la puissance aérienne stratégique, etc., etc. Et qui finalement montre que, bah, oui, l'état-major israélien se désintéresse un petit peu à une situation bah, qu'il pense être sous contrôle par rapport à Gaza, quoi.
Ouais, alors justement, parlons, c'est peut-être le moment de basculer un peu vers l'extérieur, puisque c'est évidemment, bon, comme toujours, mais un conflit sur lequel l'étranger vient se déverser d'une manière ou d'une autre. On a parlé un peu tout à l'heure, on parle depuis tout à l'heure du Hezbollah, qui est dans une... D'ailleurs, une alliance qui est toujours un peu curieuse avec le Hamas, si on songe aux tensions confessionnelles sunnites-chiites, le Hezbollah étant évidemment une force chiite sous perfusion, notamment iranienne. Le Hamas étant quand même plutôt une force sunnite, même si le Hamas est aussi en conflit avec d'autres forces sunnites. Mais bon, il y a quand même une sorte de perfusion, d'injection de matériel qui vient de l'Iran par le Hezbollah. Alors est-ce qu'on peut peut-être en dire un peu un mot, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dessine en quelque sorte, qu'est-ce que ça dessine aussi en termes de soutenabilité, parce que c'est on en a parlé un petit peu... On l'a évoqué avec l'Iron Dome tout à l'heure, mais c'est la question, c'est de savoir, bon bah voilà, ils ont tiré 3700 roquettes, c'est beaucoup. Combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'ils en ont encore beaucoup? Est-ce qu'elles viennent d'ailleurs? Et la question se posera aussi évidemment côté israélien.
Bah oui, alors pour cette soutenabilité, alors, tous les conflits précédents n'ont jamais duré plus de. Le plus long, ça va être 2014, ça a duré de mémoire 5 semaines, quoi. Au bout de 5 semaines, on avait épuisé un petit peu toutes les possibilités de part et d'autre. Il y a un problème de stock, du stock de roquettes, mais il y a aussi peut-être un problème de stock de missiles, aussi du dôme de fer. Et voilà, donc il est probable, et comme ça semble se dessiner, que les deux adversaires ayant atteint à peu près leurs objectifs qui sont pour beaucoup des objectifs internes. Hein. Une opération militaire, elle vise toujours plusieurs publics. Ça vise parfois l'ennemi, enfin normalement souvent l'ennemi, mais ça vise aussi peut-être les alliés, des rivaux, ça vise aussi l'opinion publique, etc. Donc il faut toujours se demander à qui est visé réellement par le conflit. Et donc, si on considère que les objectifs premiers sont essentiellement politiques, politiciens, je dirais presque internes, de part et d'autre, hein, le Hamas qui se positionne vis-à-vis de son rival qui vient juste d'annuler des élections qu'il aurait certainement perdues, du côté de Netanyahou également, qui est en position politique délicate et qui peut en profiter pour se repositionner en tant qu'homme fort, assurant la sécurité. Bon, ces objectifs, ils sont atteints. Quoi. Donc, les deux adversaires peuvent s'entendre, comme ils l'ont fait dans le passé, pour s'arrêter là. On notera que, comme dans le cadre du Hezbollah ou même dans le cadre du Hamas, c'est que depuis 2006, avant 2006, le Hezbollah, Israël s'affrontait quand même assez régulièrement, et puis 2006, ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a eu un pic d'intensité qui a dissuadé un peu les deux adversaires quand même de se reconfronter quand même à nouveau. Il y a eu des dégâts de part et d'autre. Du côté d'Israël contre le Hamas, il y a une opération à Gaza en 2006, plus d'été, il y a une opération en 2008, une opération en 2012, une opération en 2014, et puis là, il y a un blanc de 7 ans quand même, hein, qu'on ne souligne pas, et c'est, je pense, aussi parce que, de part et d'autre, et notamment du côté israélien, on a quand même été un peu refroidi par ce qui s'était passé en 2014, et notamment par toutes les pertes qu'on avait subies. Donc, il y a une forme de dissuasion qui s'est remise en place de ce côté. Et pour élargir, alors, je reviens à mon anecdote de mon voyage en 2004. La première partie de la phrase, c'était « le problème israélien est résolu ». Mais notre problème stratégique maintenant, c'est l'Iran. Voilà ce qu'ils appellent le troisième cercle, le cercle lointain, alors qu'il est plus très lointain puisqu'il y a des Iraniens en Syrie. C'est notre problème premier. Et on en parle assez peu, mais il y a quand même une guerre. Israël est en guerre en Syrie, en réalité. Hein. Il a multiplié un certain nombre d'actions, d'opérations, une sorte de campagne aérienne fragmentée sur toute la durée du conflit, où elle tape régulièrement sur Israël et sur le Hezbollah, en faisant justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cloisonne le terrain, ne tape pas au Liban, elle ne tape pas le Hezbollah au Liban, mais on est déjà dans un premier palier d'escalade en Syrie. On est déjà dans un conflit qui est international, qui est plus large, mais dans lequel les deux adversaires sont quand même relativement prudents, qu'il s'agisse de l'Iran et de tous ses alliés, et d'Israël de l'autre côté, dans l'affrontement, malgré toutes les déclarations et proclamations que l'on a pu empiler depuis des années, de part et d'autre. Ça reste relativement bas dans l'échelle de la violence.
Joseph ?
Alors, mais oui, effectivement, je pense qu'il y a une dimension de guerre par proxy de la part de l'Iran. Alors, à l'égard du Hezbollah, à l'égard d'un certain nombre de groupes en Irak, en Syrie. Il y a effectivement, au-delà de l'antagonisme chiite versus sunnite, etc., je pense qu'il y a une vision très pragmatique de la part du Hezbollah à l'égard du Hamas et des groupes qu'on peut retrouver dans la bande de Gaza. Et voilà, les ennemis de mes ennemis sont mes amis et je peux les aider. Et de facto, la première fois qu'on a vu arriver des missiles AT-14, des missiles Cornet, donc des missiles anti-chars assez perfectionnés à Gaza, manifestement, ils ont été fournis par le Hezbollah, sans doute via l'Iran. Et là, le but du jeu, évidemment, c'était de mettre en échec les capacités blindées mécanisées israéliennes à partir du moment où elles rentreraient dans Gaza, avec derrière ça aussi une vraie course financière, parce qu'après cette histoire d'AT-14 tirée sur un char Merkava israélien, les Israéliens se sont dit, voilà, on va doter nos chars de protection active. Mais ces dispositifs-là, donc, qui permettent de détruire, en fait, d'intercepter
Rappelons que les protections actives, c'est pas simplement on rajoute des couches de blindage, c'est on met des radars, etc. Et il y a un petit truc qui va aller détruire le missile anti-char. Est-ce qu'on comprend que c'est une gageure? Parce que vu la distance à laquelle sont souvent tirés les missiles anti-char, ça implique avoir un système ultra réactif et donc très très sophistiqué.
Et donc très cher. Et donc là, on rentre à nouveau dans cette logique où on est dans une course financière quelque part, donc il y a une course matérielle entre guillemets à la puissance des deux côtés, mais derrière cette course matérielle, évidemment, il y a la question du financement de tout ça, il y a la question de la conception de tout ça et ainsi de suite. Donc évidemment, sur la soutenabilité, à un moment donné, en fait, on est dans une situation extrêmement complexe, parce que si on se replace du point de vue du Hamas et des groupes dans la bande de Gaza, d'un côté, on a une bande de Gaza qui est sous perfusion d'aide internationale, avec une attribution de ces aides qui n'est pas toujours extrêmement claire. On ne sait pas exactement 100% de l'argent qui vient de l'Union européenne pour la reconstruction à Gaza, etc. Voilà, comment est-il dépensé exactement et ainsi de suite, c'est toujours un petit peu délicat. D'un autre côté, on a l'Iran, évidemment, qui joue son jeu avec, effectivement, pour ambition de réduire au maximum l'influence d'Israël. Israël qui, dans le même temps, et sous la pression américaine, s'est rabiboché. En tout cas, c'est officiellement rétabli ses relations, parce qu'en réalité, elles datent d'un petit peu plus longtemps que cela, avec les Émirats et avec des États du Golfe qui eux-mêmes sont en situation un peu à couteau tiré avec l'Iran. Donc, on est dans une espèce de grand jeu, quelque part. Et où, au final, pour l'instant, les différents acteurs sont quelque part dans une position d'équilibre. C'est-à-dire que personne n'est tombé de sa chaise, personne n'a été éjecté du système conflictuel, mais où chacun, évidemment, fait gaffe à bien cloisonner ses positions et fait gaffe à faire en sorte que ses positions ne soient pas remises en question par les autres. Donc, on est dans un système qui est à la fois très dynamique et en même temps relativement inertiel, parce que on n'est pas du tout sur des attaques de décapitation d'un acteur par rapport à l'autre, ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose de très dynamique et de très inertiel en même temps. C'est très paradoxal comme situation.
Ouais, et alors juste, puisque vous avez introduit les États-Unis dans la discussion, disons-en un mot peut-être, mais on peut le prendre par exemple du point de vue capacitaire et militaire aussi, c'est-à-dire par exemple les missiles de l'Iron Dome, d'où viennent-ils? C'est-à-dire dans quelle mesure, on sait qu'Israël est d'une manière générale sous, pas perfusion pour le coup, mais sous aide constante de la part des États-Unis, aussi bien pour l'aviation que pour l'F-35 que pour tout un tas de choses. C'est-à-dire, du coup, quel levier est-ce que ça donne éventuellement aux États-Unis pour éventuellement faire pression? Et donc, parce que dans quelle mesure est-ce que les Israéliens sont parfaitement autonomes, par exemple, pour gérer des problèmes comme celui de Gaza? J'y pense parce que on a vu que ça bougeait peut-être un tout petit peu du côté démocrate aux États-Unis. On ne va pas entrer dans la question de l'influence et de politique d'Israël dans la vie politique américaine, parce que c'est tout un chantier. Mais en tout cas, est-ce que de ce côté-là, il y aurait éventuellement des marges de manœuvre pour un conflit comme Gaza, ou est-ce que de toute façon, Israël est tout à fait souverain en termes de militaires et en termes de ses équipements, et peut continuer quoi que disent et quoi que fassent les États-Unis pendant un certain temps?
Oui, Israël est relativement souverain et relativement autonome pendant un certain temps. Et même d'ailleurs, même sans même parler de l'aide américaine, il ne peut pas non plus mener des opérations de haute intensité pendant très longtemps. Ne serait-ce que parce que ça plombe la vie du pays, quoi. Ça paralyse une grande partie de la vie du pays quand vous mobilisez des dizaines de milliers de réservistes. Par exemple, ils font pas autre chose, quoi, etc. Donc c'est pour ça que les guerres israéliennes sont toujours des guerres malgré tout courtes. Et puis derrière tout ça, effectivement, il peut y avoir un problème d'approvisionnement. On parlait des missiles Iron Dome, mais il y a aussi tous les projectiles, toutes les munitions guidées aériennes. Hein. On doit être a priori à un millier de frappes aériennes, donc ça c'est très consommateur. Également de munitions guidées. Donc les Israéliens ont besoin effectivement des États-Unis. Est-ce que ça donne une grande capacité de pression américaine? Je ne suis pas sûr, parce que derrière tout ça, il y a aussi des enjeux politiques de part et d'autre. Donc, au bilan, je ne suis pas certain que les choses évoluent beaucoup politiquement, en réalité. Voilà, et puis jamais oublier que du côté israélien, c'est un peu la clé, le système politique israélien est fondamentalement instable. La Knesset est élue à la proportionnelle, et donc ça donne, on l'a vu, la 4e République chez nous, hein, ça donne forcément des systèmes politiques instables qui ne deviennent stables que par la force, par la personnalité des gens qui occupent le poste suprême. Le problème, c'est que depuis quelques années, les leaders historiques, le dernier, on va considérer que c'est peut-être Ariel Sharon, qui avait suffisamment de poids pour s'imposer un peu à cet ensemble un peu politique, un peu chaotique, pour imposer des ruptures, des décisions fortes. Maintenant, c'est très difficile. Quelqu'un qui proposerait des solutions radicales, enfin vraiment en rupture, perdrait très rapidement certainement la majorité. Et donc là aussi, même d'un point de vue politique, on est dans une situation qui est quand même très largement bloquée.
Oui, c'est vrai que Netanyahou est au pouvoir depuis très longtemps et c'est pas sa première fois, etc. Mais il le fait, enfin c'est un surdoué, mais c'est un surdoué de jeu et de division des camps adverses, et il le fait beaucoup plus sur le mode du funambulisme que sur l'imposition d'un programme fort. Joseph, peut-être ?
Alors oui, pour rebondir sur ce que disait Michel à l'égard de la question américaine, alors oui, il y a une vraie aide américaine qui se mesure en milliards de dollars, etc. Mais dans le même temps, il y a obligation pour les Israéliens d'aller acheter le matériel avec cette aide aux États-Unis et uniquement aux États-Unis. Bon. Alors du coup, évidemment, ça restreint la liberté d'action israélienne, sachant qu'en fait, alors, il y a toute une série de choses qui commandent de manière très régulière, hein, moi je le vois passer dans les contrats du mois là qu'on a sur les sites, du carburant, hein, carburant d'aviation, etc. Et alors en gros paquet, hein, parfois c'est à coups de milliards de dollars, des bombes d'aviation, et donc récemment encore des corps de, enfin des kits de guidage pour bombes de JIDAN, donc des kits GPS, donc ici en plein dans les opérations. Et alors parfois ils ont trop d'argent. Ils savent pas quoi faire, et donc, par exemple, ils achètent du matériel dont la qualité est pas nécessairement optimale. Alors, je parle pas du F-35, mais en l'occurrence, des KC-46.
Vous avez réussi à la placer, c'est
oui,
fantastique,
j'ai réussi.
Joseph.
Et en l'occurrence, des ravitailleurs en vol KC-46, qui présentent de gros problèmes ces avions qui fouillent littéralement. Il y a des fuites de carburant, il y a, la perche de ravitaillement en vol est contrôlée par une caméra, mais de nuit, ça fonctionne pas bien. Enfin, il y a tout un tas de problèmes avec cet avion-là. Donc voilà. Donc du coup, les Israéliens, finalement, ils sont très pragmatiques. Ils font avec ce qu'ils ont. Les États-Unis leur donnent l'argent à dépenser, ils le font. Dans le même temps, les systèmes les plus sensibles, malgré tout, ils les font eux-mêmes. Et c'est aussi bien les questions de radar, notamment pour l'Iron Dome, c'est les questions des missiles en tant que tels, les intercepteurs Tamir, donc le missile intercepteur de l'Iron Dome. Tout ça, c'est du made in Israël quelque part. Alors, ils en jouent aussi, ils en ont vendu de batteries à l'US Army pour qu'elle puisse, évaluer le matériel pour voir si éventuellement elle ne pourrait pas commander. Mais d'une façon générale, même sur le F-35, en l'occurrence, ce sont les seuls qui ont été capables de négocier avec les États-Unis le fait de pouvoir adopter des modifications logicielles, en fait, à l'appareil. Normalement, c'est une boîte noire complète, c'est les États-Unis qui verrouillent tout, sauf dans le cas des appareils vendus aux Israéliens. Et donc, in fine, effectivement, dans le ratio, dans les rapports qui existent entre les États-Unis et Israël, c'est peut-être pas nécessairement les États-Unis qui ont le plus de poids par rapport à Israël, c'est peut-être bien dans l'autre sens que ça marche aussi. Et puis, effectivement, on a cette question de temporalité qui est différenciée. Quand les Israéliens achètent des matériels aux États-Unis, ce sont des programmes qui se déroulent sur plusieurs années. Or, effectivement, quand il y a des opérations telles que celles qu'on les voit aujourd'hui, c'est des opérations qui se déroulent sur quelques semaines. Donc, jouer finalement de l'embargo et de choses pareilles pour obtenir une pression sur Israël, pourquoi pas dans certains cas de figure très précis, mais d'une manière générale, ça ne me paraît pas être une bonne solution nécessairement.
Bon, et enfin, pour peut-être terminer par une échelle plus globale et plus, oui, plus médiatique aussi, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais il y a ces opérations de communication, en tout cas de visibilisation, en quelque sorte, des opérations. Alors peut-être de part et d'autre, moi j'ai vu passer notamment sur Twitter quelques clips intéressants du Hamas, avec toujours une musique bien, enfin bon, une musique bien quoi, où il montre comment il fabrique des roquettes dans les souterrains de Gaza. Mais inversement, il y a aussi les vidéos sur l'Iron Dome qui inondent les réseaux sociaux et les très belles photos, on l'a dit. Puis dans une certaine mesure, ça me fait un peu penser dans ce que fait Israël à leurs opérations qu'ils ont faites à un moment contre le Hezbollah. On en parlait avec Olivier Passot quand ils ont injecté du béton à haute pression dans les souterrains pour que ensuite ce soit bien visible, bien viral. Alors qu'est-ce qu'on peut dire disons des opérations de peut-être de prestige militaire, en tout cas de ce qui est en train de se faire? Notamment de la part de l'IDF, des forces armées israéliennes, pour peut-être redorer leur blason, en tout cas avoir une bonne image, ne serait-ce que du point de vue des capacités. Alors après, bon, quand on veut faire ça, c'est peut-être pas une bonne idée de bombarder des immeubles à Gaza où se tiennent des agences de presse internationales, mais ça fait partie du mix global, en tout cas, de montrer des trucs sur les réseaux et d'essayer d'en tirer un peu de prestige.
Disons que d'abord, il faut éviter de faire des conneries. Ça, c'est tout simplement.
C'est toujours un bon premier pas. Ouais.
Oui, c'est éviter de taper sur une école, éviter de faire un gros dégât, ce qui arrive quasiment à chaque fois, et qui effectivement provoque des dégâts considérables d'image. Pour le reste, moi, j'ai un peu le sentiment qu'on est quand même de part et d'autre dans, je vais dire, une forme de biais de confirmation, quoi. C'est-à-dire que, oui, on va avoir plein d'images qui vont satisfaire les partisans d'un camp, qui vont les diffuser, et ça va pas changer globalement l'opinion des autres. Et, enfin, je suis pas sûr maintenant que ça change en réalité grand-chose. Donc oui, on assiste à chaque fois. Il y a une bataille sur les ondes, une bataille sur les réseaux, il y a une bataille sur Internet, il y a une bataille. Mais qui est un peu de la même façon que sur le terrain et au bout du compte aboutit à une situation un peu bloquée, quoi. C'est comme on s'envoie des tweets au lieu de s'envoyer des roquettes et puis finalement ça change pas grand chose, quoi.
Précisons qu'on préfère toujours s'envoyer des tweets que des roquettes, mais malheureusement l'un n'empêche pas l'autre, notamment ces derniers temps. Joseph ?
Alors oui, ben en fait on est dans ce que Laurent Héninger appelait la civilisation de l'œil. C'est le bouquin d'Antoine Bousquet aussi, hein, The Eye of War, hein, donc l'œil de la guerre. Voilà, il faut montrer des trucs et c'est par l'œil que tout se réalise. Et donc il faut des trucs très visuels. Donc d'où ces images effectivement d'intercepteurs qui tournent quelque part avant d'aller taper leur cible et ainsi de suite. On est finalement dans des narratifs très classiques, c'est-à-dire qu'une armée va prendre le parti de dire ben voilà, nous on est là pour vous protéger. Et effectivement, hein, quand on voit sur le Twitter par exemple de Tsahal, la fonction de protection quelque part revient systématiquement et vraiment martelée. De l'autre côté, bah, les Palestiniens sont dans leur rôle en disant bah voilà, on est chez nous et il faut envoyer Israël à la mer, etc., etc. Il faut reconquérir et ainsi de suite. In fine, bah, Michel, je pense qu'il a tout à fait raison parce que finalement, chacun est dans son rôle et quelque part, c'est pas ça qui va faire changer les opinions. Et d'une manière générale, le conflit politique avec tout l'antagonisme et toute la violence politique qu'il y a derrière, ben, il est préexistant quelque part à toutes les stratégies d'influence que les uns les autres peuvent mettre en place. Et il survivra quelque part à ces stratégies d'influence. En attendant, ben voilà, c'est une composante comme une autre, hein. C'était Hervé Cloutier-Bigary, il dit, voilà, ben dans la stratégie militaire, il y a la stratégie opérationnelle, hein, faire la guerre, il y a la stratégie des moyens, s'équiper pour la guerre, mais il y a la stratégie déclaratoire aussi. Donc tout ce qui vient politiquement donner du sens, donner du signifiant aux opérations militaires. Alors pour ceux qui décident et conduisent ces opérations militaires, le sens et le signifiant, il est quelque part naturellement là. Mais il y a tous ceux qui observent également, et puis ben, il y a tous les messages à faire passer également, hein. Michel en parlait tout à l'heure, mais dire que ben, voilà, l'Iron Dome, ça fonctionne, c'est aussi dire que la technologie militaire israélienne, ben, elle fonctionne pas mal, elle est innovante, elle permet de faire des choses que d'autres systèmes ne permettent pas de faire. Et donc là, évidemment, il y a aussi un message en déclaratoire de stratégie des moyens et qui peut être adressé effectivement à la Syrie, à l'Iran et ainsi de suite. Mais quelque part, finalement, c'est très paradoxal parce qu'on n'a jamais autant communiquer quelque part autour des guerres, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on est capable de faire, de l'esthétique de la puissance, hein, pour parler comme Van Creveld. Et à côté de ça, ben, finalement, c'est une com quelque part extrêmement et presque de manière décevante, classique. Ce n'est jamais que du réchauffé, alors bien enrobé, hein, c'est un bel accommodement de reste, hein, pour parler en termes cuisiniers, mais ça reste un accommodement de reste quelque part.
Très bien, et alors il ne me reste qu'à vous remercier tous les deux de vous être prêtés à l'exercice de ce débriefing à chaud, alors qu'on s'approche d'un cessez-le-feu, espérons-le. Mais encore une fois, s'il y a un cataclysme qui se produit après le jeudi 20 mai soir, malheureusement on ne lit pas dans l'avenir, mais espérons que ça ne sera pas le cas. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, je mettrai évidemment en lien diverses de vos analyses, aussi bien sur les conflits passés que sur le conflit présent à Gaza. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos remarques, vos suggestions, vos retours, aussi bien sur les outils d'Apple Podcast et de SoundCloud, que par mail. On a une adresse mail toute neuve qui est collimateur@irsem.fr. C'est toujours lu et apprécié. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.